Alors, il y a des auditeurs qui nous ont rejoints. À qui ai-je l'honneur ?
Olivier.
Et ?
Virginie.
Eh bien, bienvenue. Vous nous avez entendu à la radio, vous êtes venue ?
Oui. Grâce à Olivier, qui avait un petit transistor de poche très efficace.
Ah ben, écoutez, vous avez pris la place de Mathilde, vous avez bien fait.
Ah, mais je ne voulais pas prendre la place de Mathilde, justement.
Donc, vous êtes des auditeurs d'Europe 1 ?
Oui.
Ah, écoutez, on est très contents de vous voir en vrai.
Merci beaucoup, monsieur Moix.
Non, on donne la parole à tous nos auditeurs. Je suis heureux que vous écoutiez Europe 1 et l'émission.
Et vous étiez dans la rue ou
Oui.
Alors, j'attendais monsieur Moix qui était censé sortir du garage. Enfin bon. Et Olivier est venu nous rejoindre, me rejoindre et voilà.
Du garage ?
Oui, je pensais que vous étiez en voiture d'après le vigile d'Europe 1 qui m'a dit que vous alliez sortir par là. Et je faisais la navette. Je faisais la navette.
Visiblement, ce monsieur connaît les horaires de parking.
Il connaît son métier. Ouais.
Et la grande entrée d'Europe 1.
J'avais été dénoncé.
Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Nicolas Dessiennor va vous poser quelques questions et moi aussi. Nicolas, tu poses la première question à nos amis.
D'abord, on est très heureux de vous avoir. Donc, qui êtes-vous ? Que faites-vous ? Et comment le faites-vous ?
Alors, Olivier me disait qu'il était guitariste et il voulait avoir un échange avec monsieur Moix.
Guitariste depuis longtemps ?
Depuis l'âge de 10 ans et j'ai 63 ans.
Aïe.
Et j'ai joué avec Luther Allison, que vous connaissez, je pense.
Luther Allison, oui, c'est un de mes dieux. Malheureusement, il est mort, mais il y a son fils Bernard Allison qui a repris le flambeau.
Oui.
Je suis un très grand fan de... Vous avez joué avec Luther Allison ?
Oui, deux fois.
Oh, vous n'avez pas porté votre guitare, si vous avez une guitare
hein. J'ai failli l'amener, puis je disais à Virginie, heureusement que je ne l'ai pas amené parce qu'on ne va pas voir Yann Moix. Et puis après, je me suis dit, bah, dommage que je ne l'ai pas amené parce que...
Eh bien, viendrait faire un
loin.
Je peux venir demain ou après-demain avec. Alors,
on peut, dimanche, vous pouvez venir faire un blues.
On
fait un blues
problème,
tous les deux.
Très bien, oui.
Mais j'ai 54 ans et j'ai commencé la guitare à 50 ans. Hein.
Mais on peut très bien commencer...
je peux faire un blues modeste avec vous.
Oui.
D'accord, on fait ça. Blues dimanche, c'est noté. Et vous êtes spécialisé dans quoi en musique ?
Dans tous les styles, il y a des morceaux que j'aime bien et beaucoup que j'aime pas.
Vous êtes un professionnel alors la guitare ?
J'ai été professionnel pendant des années et maintenant j'ai eu des grosses épreuves dans la vie. Bon, c'est tellement compliqué que...
Très grosses épreuves ?
Bah oui, quand mon père essayait de me tuer plusieurs fois, même quand j'étais bébé.
Mais ça c'est les bases, moi aussi.
Vous aussi ?
Ah oui, mais...
Il en a fait des bouquins.
C'est les bases, oui. Bon, ah, c'est les bases.
T'es pas au courant.
C'est comme si vous me disiez que vous aviez porté des tongs.
Ah oui.
Ça, c'est les bases. Oui, enfin bébé...
Enfin, ce qui fait que... Oui, quand même quand j'étais bébé, oui. Et ce qui fait que j'ai confiance en personne.
Personne ?
Ben, j'ai du mal.
Et Virginie ?
T'as confiance en Virginie, quand même ?
Oui, j'ai parlé avec Virginie, oui.
Vous connaissez depuis longtemps avec Virginie ?
Mais non, on s'est croisés devant Europe 1.
On a l'impression que vous êtes ensemble depuis août 1980.
Ah non, non, non.
Ah, bon, ah mais je vous assure, ah, mais, moi je dis toujours la vérité. Ah. Je dirais juillet, août 80.
Ah bah on s'est peut-être croisés dans une vie antérieure avec Olivier. Hein.
Moi je pense que dans les 80s, vous êtes croisés peut-être à une soirée Francis Lalanne.
C'est peut-être le début de quelque chose, ou alors de toute façon aujourd'hui c'est une journée spéciale. La preuve, vous êtes là. Vous étiez réveillé ce matin, c'était impossible. Vous n'imaginiez pas une chose pareille.
Virginie, vous faites quoi dans la vie ?
Oh, je ne suis pas vraiment venue ici pour parler de ma petite personne, monsieur Moix.
L'émission...
Je suis ici à cause d'Adèle Bessie. J'ai reçu l'invitation pour Art Capital, l'événement Art Capital. Il fallait à tout prix que je vous remette un carton. Voilà.
Ah, je ne suis pas au courant, mais, vous êtes auditeur d'Europe 1 quand même.
Ah ben oui, depuis un an. Depuis Olivier Delacroix, donc
Libre
Antenne. Et depuis, je suis devenue adepte à l'antenne libre.
Ah.
Seulement, je ne fais pas partie des chouchous.
Bah, ça y est, on va corriger ça, Mathilde. Hein. Virginie dans les chouchous. Et vous,
depuis Caroline Dublanche, écoute.
Et vous trimballez donc avec votre petit transistor pour écouter Europe 1 ?
Bah, surtout parce que ça me donne l'heure.
Ah, mais vous auriez pu avoir l'heure sur une autre radio ?
Non, c'est quand c'est éteint, ça donne l'heure.
Mais par contre,
quand c'est l'heure d'une émission qui m'intéresse, comme une émission scientifique sur France Culture l'après-midi, ou votre émission le soir, là, à ce moment-là, je l'écoute.
D'accord.
Mais normalement, je l'écoute chez moi.
On passe de la bonne musique, vous êtes dans l'antenne libre. Hein.
Oui, j'ai remarqué,
beaucoup
justement,
blues, hein.
c'est ce qui m'a attiré très vite l'oreille. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de radios, dès qu'il y a le morceau de musique, je coupe et je rallume 5 minutes après. Mais sur votre émission, je ne coupe pas, c'est bon.
Europe 1, il faut le savoir, je crois que c'est la station où passe la meilleure musique. Même Nicolas Dessiendor, qui n'aimait pas la guitare électrique, je l'ai converti au moins sur un morceau de Frank Zappa. qui s'appelle Any Kind of Pain à la guitare électrique. Il a reconnu qu'il y avait quelque chose, alors que lui, c'est vraiment la musique classique, hein, Nicolas.
Là, on partait de loin, effectivement, j'ai senti une émotion.
À propos de musique reggae, j'ai lu une anecdote récemment,
oui,
que Bob Marley, il avait été invité par un producteur à la Jamaïque à se rendre dans sa maison pour discuter d'un projet musical, et que les employés de maison du producteur à la Jamaïque ont refusé de servir à table de Bob Marley sous prétexte qu'il était pieds nus, il était venu pieds nus, parce que bon, il fait chaud là-bas. Et ils ont fait la grève, ils ne voulaient pas le servir. Et en fin de compte, le producteur a dû engager un chef de cuisine Rastafari pour qu'il puisse servir Bob Marley.
Pourtant, il n'y a pas de plus belle, de beau soulier au monde que les pieds nus de Bob Marley.
Et c'est incroyable que même à la Jamaïque, ils ne voulaient pas le servir.
Écoutez, et vous faites, vous travaillez aujourd'hui, Olivier ? Vous êtes à la retraite ? Vous faites quoi sans indiscrétion, hein ?
Non, je touche une aide de l'État.
Une aide de l'État. Et vous, Virginie, vous êtes dans quoi ?
Virginie ne veut pas parler d'elle, mais on
a. Ah, bah oui, mais Virginie, vous êtes là maintenant.
Je viens de terminer un tableau.
Ah, vous êtes peintre ?
Oui, mais je ne suis pas que peintre, malheureusement. Je suis frustrée de ne pas être dans les autres éléments. Mais bon, ça va, j'arrive à, comment vous dire, à apaiser mes frustrations.
Et quand vous n'êtes pas que peintre,
vous n'êtes pas une auditrice d'Europe 1 ?
Ah, si.
Ah, vous avez déjà appelé, non ?
Oui.
Oui, c'est bien ce qui me semblait, c'est Benoît qui me le signale.
Je suis passée à une de vos émissions, mais bon, sur un thème où on ne va pas revenir sur le sujet parce qu'on ne va pas me coller une étiquette.
C'était avec moi ?
Voilà, oui.
Ah bah, je peux savoir qui c'était, quel thème ?
Bah, c'était sur le thème de la cannabis.
Ah !
On ne va pas remettre ça sur le
d'accord,
plateau,
d'accord.
Passons à autre chose.
D'accord. Voilà. D'accord. Nicolas, quelques questions à poser à nos amis ?
Je sais pas, mais on n'a pas envie d'être intrusif non plus. On sent
si,
que...
si, on a envie. Non, on va l'être d'ailleurs.
C'est vous qui m'intriguez, Virginie, parce qu'effectivement, on a su beaucoup de choses. Et voilà, moi, j'étais pas là le jour où vous parliez du cannabis. De quoi parliez-vous ? Qu'est-ce que vous disiez ?
Oh non, on va pas revenir sur ce sujet.
Ah bah tiens, si.
On est là pour
c'est soit ça, soit la coke. Donc
vous avez voulu venir. Vous êtes assise à côté de moi. Je veux comprendre, Virginie.
Bah, j'ai essayé
avec modération ces trucs-là, hein, parce que nous, on est très peu pro-drogue sur Europe 1 et en
écoutez,
particulier à l'antenne, on n'aime pas la drogue.
J'ai pas consommé là depuis 5 mois de cannabis, donc voilà.
Ah.
Je suis pas dans l'addiction du tout.
D'accord.
C'est quelque chose qui me poursuit depuis l'âge de 15 ans, oui.
D'accord.
Voilà. Mais apparemment, je suis pas une droguée qui est dans l'addiction, puisque j'en ai pas pris depuis 5 mois, et c'est la vérité.
J'aime
je
pas
ne
le mot
sais
droguée,
pas mentir, cher ami.
J'aime pas le mot droguée. Je trouve que c'est pas un mot qui est adapté à la situation. La drogue existe. Le mot drogué, je ne l'aime pas parce qu'il est trop générique. Il met dans... Je sais pas, c'est très péjoratif.
C'est-à-dire que c'est un mot qui vous colle une étiquette directement.
Ah, ça, alors là, pour le coup, ça pue les années 70. Hein. Espèce
c'est
de drogué.
Il
n'y a pas de drogué heureux. Tu te souviens, ce livre, ce Dr. Livenstein, sorti en 1977, je crois. Olivier, vous avez déjà goûté à ces trucs-là, vous ?
Non, jamais.
Voilà, un guitariste.
À l'école, peut-être deux tafs, et puis j'ai trouvé que ce n'était pas pour moi.
Vous auriez pu jouer avec Frank Zappa parce qu'il n'avait pas la
drogue. Quand j'étais musicien, on me l'a souvent proposé de façon de très nombreuses fois et j'ai toujours refusé.
Vous avez bien raison, c'est illégal déjà.
Et je me faisais engueuler par les autres musiciens qui auraient dû, t'aurais dû le prendre, tu me l'aurais donné. Et moi, je trouve que ce n'est pas un cadeau à faire et donc je ne touche pas ça.
Déjà, on risque d'être puni par la loi. Première chose, la prison. Et oui. Nicolas, ça t'inspire ça ? T'as jamais pris de drogue, toi ?
Moi, j'ai jamais goûté une simple cigarette. J'ai jamais une cigarette allumée dans ma bouche. J'ai fait un.
C'est une bonne chose, Nicolas.
Petit,
une
à
bonne
ma
chose.
Grand-mère. Et ben, je m'y suis tenu. Alors, je bois. Avec,
Jess,
avec modération, mais. Ah, Jess.
Jess,
comment
Jess, vous prenez quoi, vous, Jess en... Vous avez des addictions ? Pas forcément des drogues.
J'ai une addiction. J'ai une addiction qui est en train de se développer, mais je crois que c'est foutu et que je vais pas en guérir. C'est l'addiction au Yann Moix le soir à 23h et des brouettes. Je rigole. Non, des vraies addictions, je vais être très sérieux là pour le coup, vraiment. On va dire que j'ai échappé à toutes les addictions et que mon addiction ensuite a été l'addiction à une personne. En d'autres termes, et c'est vrai en plus, j'ai pratiqué une espèce de technique de substitution, c'est-à-dire que j'ai
une amoureuse
pour être addictée. Ouais, voilà, une amoureuse totale. Et puis en plus, vous parliez de poésie, modestement, comme une espèce de muse, vous savez, vous avez l'impression que la personne représente tout pour vous, quel est votre horizon, quel est votre fin, votre début, votre fin et votre milieu, si j'ose dire. Et puis, le jour où il y a des déceptions, c'est là où vous vous rendez compte que c'était une addiction, parce que vous êtes en état de manque.
La dépendance sentimentale.
sentimental, érotique et tout ça, c'est la même chose, évidemment, évidemment, parce que vous le savez bien, quand on est en état d'amour, en énamoration, pour faire des jolis mots, eh ben, notre corps biochimique sécrète des hormones, hormones d'ailleurs qui sont activées par les drogues. D'ailleurs, dopamine, la fameuse dopamine, dans le mot dopamine, il y a le mot dope, et c'est pas pour rien. Vous voyez? Je crois que d'ailleurs les mots, si on les écoutait davantage, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, en fait, c'est se laisser bercer, entraîner, emporter par les mots, par le rythme des mots. Vous êtes guitariste, cher ami, ben, c'est la même chose. Votre voix tricote les six cordes, et au début vous avez une partition ou pas, vous avez des mélodies en tête et qui viennent au bout des doigts, et puis après ça part tout seul. Et pour revenir au problème des addictions, la drogue, en fait, Baudelaire en a très bien parlé, est très incompris, parce qu'il a écrit les paradis artificiels et tout le monde croit que c'est l'apologie des substances. Pas du tout, puisqu'il dit qu'en fait, c'est magnifique. Ça vous permet d'aller dans des mondes imaginaires qui n'existent pas, ça vous permet d'aller dans un autre réel. Mais quand il s'agit de l'écrire, le réel, de le transformer en peinture, de le transformer en texte, de le transformer en musique, eh bien, la volonté, elle fait défaut, parce qu'il faut bosser. Et la drogue, au sens large, détruit tous les mécanismes de la volonté. C'est pour ça que c'est une saloperie absolue. Et,
Olivier, est-ce que la guitare, à un moment donné, ça a pu jouer comme une addiction? Le côté obsessionnel de se mettre sur un instrument et de jouer... Parce que moi, par exemple, je joue une heure par jour, mais je sais qu'il y a des guitaristes, je ne me prends pas pour un guitariste, j'ai des amis qui jouent la guitare, eux, ils sont passés à 15 heures par jour, parce qu'ils sont obsessionnels. Est-ce que vous avez eu des traversées d'obsession avec votre guitare?
Oui, pendant une dizaine d'années, je faisais 12 heures par jour pendant une dizaine d'années.
Vous devez avoir un niveau extraordinaire.
Mais Jeff parlait de dopamine.
Oui.
En fin de compte, j'ai lu dans des revues scientifiques de neurobiologistes que lorsqu'on joue, on sécrète de la dopamine. Donc on sécrète sa propre substance euphorisante.
Il faut savoir aussi que quand on apprend, je dis ça pour nos éditrices et nos éditeurs, quand on apprend un nouvel instrument alors qu'on n'en a jamais fait, on développe des circuits neuronaux inédits. Oui. C'est-à-dire que le cerveau évolue.
Oui, même chaque heure.
Même chaque heure.
Oui. On crée des nouvelles. C'est-à-dire on crée des nouvelles connexions, c'est ça. Les neurones existent déjà, mais ils vont se connecter à d'autres neurones, et des fois même à l'autre bout du cerveau. Et on devient. On se programme.
La plasticité cérébrale,
on se programme soi-même.
J'ai une question à vous poser. Je suis un peu, en termes de blues, dans une sorte de situation comme un hamster dans une cage, c'est-à-dire que, ou un rat qui chercherait la sortie. J'ai l'impression de répéter toujours un peu les mêmes scénarios. Comment on fait pour sortir de ça?
Il faut écouter des musiciens d'autres styles.
Et repiquer?
Non, mais ça nous donne des idées qu'on pourra intégrer au blues, ou qu'on pourra même intégrer dans notre style. Parce que dans chaque style de musique, il y a des morceaux extraordinaires et beaucoup de très mauvais morceaux. Mais si on s'intéresse aux bons morceaux, il y a des idées, il y a une substance, et ça peut nous inspirer pour un autre morceau.
Nicolas, toi qui es un spécialiste du mauvais goût, j'ai remarqué que dans tes listes de morceaux de très mauvais goût, il y a quand même, une particularité, c'est que tu aimes les gens qui sont extrêmement virtuoses dans un domaine, ça peut aller de Offenbach au Charlot en passant par le groupe Odeur, mais qui ne se prennent pas au sérieux. C'est-à-dire qu'ils auraient pu, vu leur niveau technique, être extrêmement sérieux et ils ont quand même choisi de ne pas l'être. C'est ça aussi le mauvais goût, non?
Le mauvais goût, c'est comme on dit, c'est le bon goût avec une pointe canaille. C'est quand le second degré, l'humour, la fantaisie se glissent dans le goût le plus corseté. Alors, la perfection formelle, c'est une chose, mais ça forme le classicisme un peu rigide. Quand il y a ce décalage, cette pensée qui donne Offenbach, qui donne les Charlots, qui sont des chansons remarquablement construites, il faudra peut-être qu'on en écoute une bientôt.
On va écouter la
chou farci. Je pense qu'on est dans un restaurant et ça attend qu'on écoute le chou
farci. Mais c'est vrai que Prenons Offenbach, on prend Frank Zappa, on prend le groupe Odeur, on prend les Charlots. Ce sont des gens qui auraient pu déjà être géniaux sans avoir d'humour. Parce que musicalement, Offenbach, c'est quand même, on n'est pas loin de Mozart, c'est extraordinairissime. Zappa, on n'est quand même pas très loin de Hendrix. Les Charlots, il faut le rappeler, étaient les musiciens de Antoine et faisaient la première partie des Rolling Stones. Et puis, j'ai cité aussi le groupe Odeur, Pipin, qui est quand même un musicien exceptionnel. Et il y a des milliers d'exemples comme ça. C'est valable aussi au cinéma. Quelqu'un comme par exemple Dino Risi ou celui qu'on adore qui a fait la Grande Bouffe,
Marco Ferreri,
sont des réalisateurs prodigieux. mais ils ont choisi parfois le burlesque, le grotesque.
Ils ont choisi la voie, disons, parallèle, mais parallèle. En même temps, à la base, ce sont des remarquables techniciens. On ne peut pas tricher.
Exactement.
La musique, on ne peut pas tricher. Il faut quand même une base technique et ensuite, on peut se permettre toutes les fantaisies.
Exactement. Nous allons écouter Le Chou Farci par les Charlots.
Europe 1, antenne libre, Yann Moix.
Moi, ce que je trouve extraordinaire dans votre dictionnaire, alors, ce n'est pas une émission de publicité, moi, j'adore ce livre, donc je ne fonctionne que par envie.
Je ne sais pas où jeter la pierre, cher ami.
Ce que j'adore dans ce livre, c'est que sur la même page, on trouve « enfants maquillés » et « éoliennes ». Alors, vous n'aimez ni les éoliennes ni les enfants maquillés. On va commencer par les éoliennes. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans les éoliennes ?
Ça prend trop de place. Ça me fait peur. C'est comme les gibets du Moyen-Âge. Je vois ça, j'ai l'impression de voir une potence au loin.
Vous voyez pas un moulin moderne, vous ?
Ah non, les moulins, c'est une structure, il y a de la pierre, il y a une poésie. Ce n'est pas ces gigantesques phallies de 100 mètres de haut. En fait, ce n'est presque pas quelque chose contre l'éolienne en soi, c'est l'objet qui m'effraie, c'est planté. On a l'impression de voir ces ossuaires de la...
L'esthétique qui vous déplaît.
Oui, bah, en fait,
c'est une question d'esthétique qui vous déplaît, Nicolas. Question...
Ceux qui nous rejoignent, je le dis, il est 23h44, nous sommes en direct sur Europe 1 à l'éclectique. Vive Europe 1, nous sommes sur Europe 1, la radio qui ne se laisse pas impressionner par la médiocrité ambiante et la radio qui passe de la musique qu'on aime, celle des années 70. Pardon Néo, vous étiez sur les éoliennes.
Ah oui, alors là,
vive Europe 1. Oh,
bah, Virginie, remarquable. Virginie, remarquable.
Ah non, j'ai rien dit. J'ai rien dit.
Ah bah, ça, c'est le cannabis. Non, voilà, on va pas épiloguer sur les éoliennes, mais voilà, moi, ça me fait penser à ces champs du côté de Verdun. On a l'impression de voir des grands crucifix plantés. Voilà, c'est quelque chose de macabre qui m'effraie ontologiquement.
Et les enfants maquillés ?
Alors ça, c'est autre chose. Bah, vous savez, c'est ces parents qui, ces espèces de, ces mères qui maquillent leurs fillettes des 4 ou 5 ans, comme si c'était des petites poupées, des petites femmes. C'est quelque chose d'effectivement de très ambigu.
On dirait qu'on les préparait des majorettes.
Oh, si c'était que des majorettes, je ne sais pas, mais presque à faire du pole dance. Moi aussi, ça me met mal à l'aise, voilà.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, des éoliennes, Olivier ?
J'ai failli en vendre quand j'avais 20 ans, parce que je pensais que c'était l'avenir. Je ne suis pas sûr que ça soit l'avenir. Mais failli en vendre. Je ne sais pas, oui. Oui, parce que je voulais promouvoir ça. Et il y avait des sociétés qui voulaient vendre des chauffe-eau solaires particuliers ou des éoliennes pour des particuliers. Ce n'était pas des grandes éoliennes comme maintenant. Et quand j'avais 20 ans, je pensais que c'était l'avenir. Mais...
Bah, d'un certain point de vue, vous aviez raison, parce qu'elles sont partout maintenant. Vous seriez propriétaire d'Europe 1 si vous aviez vendu des éoliennes il y a 20 ans.
Vous n'aimez pas les fêtes de fin d'année, vous, Néo ? Vous exagérez un peu, on les a passées ensemble à l'antenne, en direct sur Europe 1.
Justement, parce que c'était quelque chose d'original, de décalé, d'inattendu. J'aime pas les fêtes obligatoires, le côté le grand troc institutionnalisé. On est là, je te donne un cadeau, tu me donnes un cadeau et on fait semblant d'être content de se voir.
Alors, vous n'aimez pas le guide de l'emmerdeur non plus ? Alors, vous savez ce que c'est, vous, Virginie, le guide de l'emmerdeur ?
Ah, pas du tout.
Olivier, vous savez ce que c'est, le guide de l'emmerdeur ?
Non, désolé.
Moi, je me souviens, si je ne m'abuse, c'était un guide dans lequel on apprenait qu'on avait le droit de rédiger un chèque à la main sur du papier toilette. C'était aussi valable. C'était aussi des petits
C'est deux journalistes qui étaient allés creuser dans toutes les lois. Dans tous les vides juridiques. Et en fait... On avait le droit à l'époque de pisser dans la rue, de goûter tous les produits dans les supermarchés. En fait. Et donc, c'était sorti à la fin des années 80. Ça avait été un des best-sellers de l'époque. Je crois que c'est Philippe Aki qui avait publié ça. Et quand on le relit aujourd'hui, ça a très, très, très mal vieilli. Mais, ouais, mais c'est un livre à peu près introuvable.
Et d'ailleurs, Suicide, mode d'emploi aussi, c'est introuvable.
Alors, Suicide, mode d'emploi est un livre qui a été interdit. C'est un des seuls livres véritablement interdits. Oui.
Comment, un livre qui vous incite au suicide ?
Oui, c'était
un livre qui expliquait
en 1982
toutes les techniques pour se suicider, absolument.
En 1982.
C'est monstrueux.
Il y a eu un livre, oui, que je trouve personnellement.
C'est d'une perversité.
Moi, je ne suis pas
extrême, moraliste,
hein. Je suis très très libéral, mais je trouve effectivement, et Dieu sait si je vais loin dans la tolérance, mais ça c'est quelque chose qui m'a toujours énormément choqué. Suicide, mode d'emploi, ce livre.
Ce livre avait...
Surtout que vous ne nous incitez pas au suicide.
Ah ben non, moi c'est un livre qui m'a toujours mal. Pourtant, quand il est sorti, j'étais en pleine crise et je voulais emmerder tout le monde, etc. Mais même ça...
C'est un livre fait sans aucun...
Ça m'avait mis
sans
mal à l'aise.
Sans aucun humour ou quoi que ce soit. Ouais. C'était pragmatique, technique, efficace, présenté avec une objectivité presque glaçante. J'ai des amis qui l'avaient, je l'avais lu en partie.
Tu l'as vu, toi, le...
Ah oui, je l'ai eu entre les mains un été chez des amis qui avaient une maison.
Ça ressemble à quoi?
C'est un livre blanc, on dirait presque un livre à compte d'auteur. C'est un petit côté pensée universelle, tu vois, ou l'art battant.
Vous l'avez ouvert, vous, Olivier, ce livre?
Non. Une connaissance de ce livre.
Ah oui, c'était un des livres de 1982 les plus
écrits. Il fallait
bien
qu'on apprenne son existence. Hein.
Alors, je reprends au hasard quelque chose. Le nouveau roman.
On aurait pu dispenser son existence.
Le musée du Louvre. Alors là, moi qui adore le musée du Louvre, qui est passé une partie de ma vie au musée du Louvre, je ne comprends pas.
Non, alors le musée, non, j'ai un problème avec ce qu'on appelle le Grand Louvre. Toi, tu as peut-être connu le Louvre d'avant Pei, le Louvre d'avant les grands travaux, qui était un musée un petit peu mystérieux.
Même celui d'après.
Voilà, mais dans lequel on pénétrait par des voies de travers, on pensait qu'on allait croiser Belphégor et Blake et Mortimer.
Asseyez-vous, Mathilde. Voyons, prenez une chaise, Mathilde.
Et non,
une chaise pour Mathilde, s'il vous plaît. Merci.
Oui, en fait, moi, c'est plus un problème avec le côté grand môle culturel avec un grand K, où vous avez la Victoire de Samothrace d'un côté, et de l'autre côté, vous pouvez manger un Boboon, ou alors acheter une Einstein Bose, ou aller chez Nature et Découverte, vous achetez du déodorant.
Moi, c'est la galerie en dessous, là.
Non, mais c'est la proximité, la porosité et l'interpénétrabilité de tout ça m'a toujours un petit peu dérangé. Moi, j'aime bien que... Voilà,
alors, je rappelle qu'on est en direct d'Eclectic avec des auditeurs d'Europe 1 qui nous ont rejoints, et même une fidèle de l'émission, Virginie et Olivier, guitariste, avec qui on fera un bœuf dimanche. Mathilde, ça va?
Ça va très bien, et vous? On passe une très bonne soirée, on est bien accompagnés.
C'est bien cet endroit. Hein.
Il est vraiment très chouette.
Les frites étaient bonnes. Hein,
les frites étaient
la lumière
très
est très tamisée. C'est vraiment, on a l'impression vraiment d'être...
au Pop Club.
Ouais, en 1972. Et nous, on adore être en 72 sur la libre antenne.
Yann, est-ce que vous pouvez me décrire un peu la salle dans laquelle vous êtes
Je vous entends.
Placé? Oui. Est-ce que vous pouvez me décrire un peu la salle dans laquelle vous êtes assis?
Alors, oui. D'abord, les tables sont rondes ou alors carrées mais à bout arrondi. Les traversins, les oreillers sont psychédéliques avec des peaux de mouton factices, mais enfin, et des sièges rembourrés beige. Des lampes à trous de gruyère noir casque Dark Vador avec des espèces de bougies lampions tirées d'un film de Scorsese de 1974. Vous avez ensuite une sorte de chapelet de lumière suspendu qui descend du plafond, un peu comme des boucles d'oreilles de Sophia Loren en 1964. Et puis vous avez des rideaux et puis des sortes de coques de noix rondes dans lesquelles on peut s'engouffrer et qui sont aussi des espèces d'enceintes qui permettent d'être protégées du bruit. C'est des sortes de billes coupées en deux ou des noisettes.
On est un peu dans le moulin zard de Tintin et les Picaros.
On est dans Tintin et les Picaros, mais on est aussi dans une ambiance Brian de Palma. On est dans une ambiance aussi
Phantom of the Paradise, absolument.
Phantom of the Paradise, avec un brin de Jean-Pierre Melville aussi. Il y a un peu de Jean-Pierre Melville.
Et du Henri Verneuil, parce qu'on parlait tout à l'heure de Perceval
voilà.
La Ville, il y a un côté
et
comme ça.
On est un peu en direct de l'année 74 et on a l'impression que Minos va sortir immédiatement là, du métro. Et que si on regarde au loin, on verra peut-être sur le dit métro aérien, Jean-Paul Belmondo en train de courir sur le toit.
Minos a tué Léa Massari.
D'ailleurs, j'aperçois Henri Verneuil là. Soir Henri.
Nicolas, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui était Minos?
Non, mais il va vous rappeler d'ailleurs le vrai nom d'Henri Verneuil.
Achat de Malakian, tout de même.
C'est les bases.
Ça, c'est dans mon dictionnaire. Minos, c'était le méchant. C'était le méchant dans Peur sur la Ville. Qui est cet homme qui n'a qu'un œil.
Son œil de verre, oui.
Très, très inquiétant. Moi, j'étais terrorisé. J'avais la bande-annonce dans des vieilles cassettes René Château, dont je parle aussi dans mon livre. Et j'étais terrorisé par la bande-annonce de Peur sur la Ville.
Ah avec Rosy Vart.
Et Rosy Vart, Léa Massari. Et une musique des New Morricone, il me semble, d'ailleurs.
Oui, Léa Massari, immense actrice.
Dans le souffle au cœur.
Souffle au cœur. Voilà dans des rideaux aussi... qui sont...
dans le film de Christian Vadim, Barbarella, dans le rôle principal de
Roger
Vadim, pardon. Et non pas le fils, encore une boulette de ma part. Oui. Dans le rôle principal de Jane Fonda, pardon.
Oui,
pardon. Yann, Benoît a une question.
Oui, oui. Madame psychédélique.
Vous m'entendez,
mais
Yann
oui, je vous entends, oui.
Un peu de science-fiction.
Mais on se demande avec Nicolas s'il y a un petit peu de reggae dans le restaurant, parce que c'est un peu la condition sine qua non de l'événement.
Non, mais il n'y a que de la musique. Oui, il y a eu Eric Clapton.
Ah.
I Shot the Sheriff.
La reprise de Bob Marley.
Voilà, donc ça en est quand même.
Ok, bon bah on valide alors. Bah, je vous laisse continuer, Yann.
Voilà, 1974.
D'accord, le vin est très bon ou pas?
Très. C'est okay. Nicolas Desiendorf qui l'a choisi.
On a pris un Crozes Hermitage très 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 agréable.
Avec modération,
bien sûr. Modération sur Europe 1. Il est 23h53 sur Europe 1 et je crois que Virginie et Mathilde veulent vous faire une petite surprise, chers auditeurs.
Exactement, alors on voulait chanter avec Virginie le premier couplet de Le lundi au soleil de Claude François. Alors est-ce que vous êtes prête, Virginie? Alors on se met près du micro.
Qui on se marie.
Alors, 1, 2, 3.
Regarde ta montre, il est déjà 8 heures. Embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur. Parmi ces milliers de gens, c'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller s'allonger seul dans les genêts. Et lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil, c'est quand on est derrière les barreaux, quand on travaille que le ciel est beau,
qu'il doit faire beau sur les routes, le lundi au soleil. Et voilà.
On peut applaudir.
Je me souviens sur podium d'un sosie qui finissait toutes ses phrases avec la voix nasillarde de Claude François. Donc il arrivait, bonjour Yann, comment ça va ce matin? Alors, on se passe bien? Mais c'est juste à la fin des phrases. Tu es content de ton tournage? Voilà, c'est... je vais voir si d'ailleurs, je vais essayer d'appeler un copain là, qui est très concerné par tout ça. Olivier, on ne vous entend pas beaucoup. Vous êtes quoi?
Il n'y a pas de micro. Ah là, voilà.
Bah si. Non, Olivier?
Olivier, il est plutôt guitariste, peut-être qu'interprète. Mais s'il a une chanson à nous chanter, oui, bien sûr. On est tout ouïe. Il a regretté de ne pas avoir pris sa guitare. Il a une guitare et bon.
Je peux vous chanter une chanson. D'ailleurs, je peux vous conseiller. Je suis en train d'écouter un disque. Là, j'ai les paroles sur la pochette de l'album. Là.
Oui, oui.
Allez-y, on va le prendre.
Et Yann qui appelle un copain là.
Non mais il répond pas.
Aïe.
En tout cas il est...
Il est minuit en même temps.
Il est presque minuit, il est 23h55. Ouais,
ce copain là, il se réveille là à mon avis.
Et il y a encore beaucoup de monde dans le restaurant, une belle ambiance, c'est chaleureux ici.